Et bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
8h30, on est ensemble pour une demi-heure d'info.
Europe 1, il est 8h.
There is no consent. There is no consent in this house to leave the European Union without a deal.
Il n'y a aucun consensus dans ce Parlement pour quitter l'Union européenne sans accord. Les mots de Jeremy Corbyn claquent. Le leader travailliste et opposant acharné à Boris Johnson savoure son succès. Une motion pour reporter le Brexit a été votée.
Ils sont de plus en plus courts, ils passent partout. Ce sont les prénoms Caméléon, Mila, Louise ou encore Léo. Ce sont les tendances des prénoms les plus choisis en France pour des raisons souvent très personnelles.
On arrive tous évidemment dans un couple chargé de notre histoire, avec nos a priori, avec les noms qu'on a associés à celles qu'on n'aimait pas au lycée, celui qui avait vraiment trop de boutons, qui sentait mauvais.
Il veut imposer sa chance, serrer son bonheur et aller vers son risque. Cédric Villani à l'assaut de la capitale. Il devrait annoncer tout à l'heure sa candidature au risque de se faire exclure de son parti. Qu'en pense le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume ? Il sera notre invité dans un quart d'heure.
Michel Bouquet au théâtre, mais pas sur les planches. La vie de l'immense comédien âgé de 93 ans, mise en scène. Il s'est confié à Europe 1, une voix toujours inimitable et la modestie des plus grands.
Ce serait ridicule de se croire important quand on est acteur.
Quart de finale ce soir à l'US Open, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à un tel niveau. Gaël Monfils joue ce soir en quart de finale de l'US Open à New York.
Il est 8h01, bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1.
Le journal, Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Les ministres sont-ils frappés de réunionnite ? Une chose est sûre, tous ne sont pas très enthousiastes à l'idée de se retrouver tout à l'heure en séminaire gouvernemental. Un séminaire, encore un, cette fois-ci pour définir la méthode de l'acte 2 du quinquennat. Un air de rentrée des classes avec au premier rang, toujours les mêmes, qui veulent se distinguer, Jean-Rémy Baudeau.
Il y a un côté théâtre. À chaque fois, des faillots lèvent la main pour se faire bien voir du président, raconte en privé une ministre de premier plan. Pour certains, cet exercice de team building macroniste a atteint ses limites. Nous sommes trop nombreux autour de la table pour que ça soit réellement efficace, constate un membre important du gouvernement pour qui les agendas sont trop chargés pour se permettre ce temps de pause. Les séminaires gouvernementaux sont-ils une perte de temps ? Certains ministres d'expérience commencent à le penser. La faute au dernier organisé fin avril à Matignon après le grand débat national. Une journée entière sous la direction d'Edouard Philippe. L'ambiance était un peu trop détendue, se souvient un conseiller qui attend beaucoup du séminaire du jour sous la houlette directe du président Macron. Car l'impatience monte en cette rentrée qui s'étire. On est tous déjà au travail, s'agace l'entourage d'un ministre issu de la droite. Avant de lâcher, ça fait 4 fois qu'on inaugure l'acte 2.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 y a noté la présence très certainement à ce séminaire de 2 nouveaux entrants au gouvernement. Jean-Paul Delevoye en charge de la réforme des retraites, délégué auprès de la ministre des Solidarités Agnès Buzyn et puis Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux transports.
Un premier gros revers pour Boris Johnson.
Le boxeur de la politique britannique sonné, groggy, les frondeurs ont frappé fort hier. Ce fut une folle journée au cours de laquelle le Premier ministre a perdu ce qui lui restait de majorité au Parlement, une véritable rébellion dans son propre camp conservateur. La motion de reporter le Brexit au 31 janvier prochain s'est imposée. Premier gros revers pour Boris Johnson. Son principal opposant, le travailliste Jeremy Corbyn, enfonce le clou devant les députés.
Il n'y a aucun consensus. Il n'y a aucun consensus dans ce Parlement pour quitter l'Union européenne sans accord. En conséquence, le Premier ministre veut convoquer des élections législatives anticipées. Pas de problème. Mais avant, faites passer la loi. Faites passer la loi pour que le no deal soit enfin retiré de la table des négociations.
Bonjour Vincent Hervouette.
L'ambiance. Hein.
Aucun répit en Grande-Bretagne. Quand on voit que ça se calme, eh bien ça repart de plus belle.
Oui, la rentrée parlementaire hier à Westminster, c'était complexe et brutal comme une entrée dans l'atmosphère. C'est le retour sur terre des députés britanniques. Ils ont refusé 3 fois l'accord sur le Brexit négocié avec l'Union européenne. Ils ont repoussé 2 fois la date butoir. Et ils resteraient volontiers sur le pas de la porte, prenant leur temps comme on prend le thé. Et hier soir, ils ont donc voté pour un nouveau sursis. Boris Johnson n'a pas l'intention de le quémander à Bruxelles. Le Premier ministre veut le Brexit à la Toussaint, en finir, et s'il le faut, partir en claquant la porte. C'est le no deal, la pire solution pour tout le monde. Alors, il joue la montre avec son Parlement et la stratégie de la tension avec les Européens. Il espère les infléchir in extremis sur le fameux filet de sécurité qui a un avantage réel, ne pas remettre de frontières entre l'Irlande et l'Ulster, mais qui a un inconvénient rédhibitoire, le maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière, ce qui l'empêcherait de commercer comme il l'entend avec le reste du monde. Alors hier soir, Boris Johnson a été sévèrement désavoué par 21 députés de son camp. Il riposte en réclamant la dissolution du Parlement et s'il l'obtient tout à l'heure, les législatives auront lieu dans 6 semaines. In fine, en Angleterre, c'est toujours l'électeur qui tranche. C'est lui qui a ordonné le Brexit. C'est lui qui donnera raison au Premier ministre ou donnera les rênes aux travaillistes. Avant de s'en aller, les Anglais offrent encore des leçons de démocratie au continent.
L'éclairage international de Vincent Hervoet. Merci Vincent.
Vincent est-il un prénom à la mode ?
Bah, tout autant que Mathieu ou Sonia.
Pas vraiment sûr. Au vu des nouvelles tendances, les prénoms aujourd'hui sont de plus en plus courts. Ils passent partout. Ce sont ce qu'on appelle des prénoms caméléons.
Chaque année, l'officiel des prénoms dévoile les tendances. Mila, Louise, Jade pour les filles, Léo, Gabriel, désolé Vincent. Pas de Vincent pour les garçons cette année. C'est le top des prénoms choisis par les parents. Johanna Chabas s'est rendue à la maternité de Port-Royal à Paris où le choix des prénoms reste imprégné, vous allez l'entendre, de l'histoire de chacun des parents.
On arrive tous évidemment dans un couple chargé de notre histoire, avec nos a priori, avec les noms qu'on a associés à celle qu'on n'aimait pas au lycée, celui qui avait vraiment trop de boutons, qui sentait mauvais. Pour nous, ça a été un sacré challenge.
La fameuse bataille pour choisir le prénom, Anne-Laure l'aura vécu jusqu'au bout. Alors comment plaire à tout le monde ? Eh bien avec un prénom caméléon, un prénom avec le moins de connotations possible. C'est ce qu'a voulu Jonathan en appelant sa fille Léane.
Samantha, Jennifer, tout ça, c'est des beaux prénoms, mais ils sont trop américains par exemple. Ou alors c'est connoté très avec la religion très vite. Moi, j'adore le prénom Isaac, par exemple, mais Isaac, c'est quand même lourd à porter.
Mais ce n'est pas tout. Un nom caméléon peut aussi se dire dans plusieurs langues. C'est le cas pour Gaïa, le nom choisi par Lionel.
Madame est d'origine, a des origines italiennes. J'ai aussi des origines portugaises, du coup. On a privilégié un prénom qui pouvait passer facilement dans les trois pays, quoi. Donc comme ça, il n'y a aucune difficulté pour personne.
Ce côté mondial est de plus en plus important pour les jeunes générations qui ont connu Erasmus, qui voyagent beaucoup. Mais même avec toutes ces tendances, les parents rencontrés ici avaient un critère principal, aimer un prénom qui fera désormais partie de leur vie.
Bien sûr, c'est le plus important. Reportage signé Johanna Chabas pour Europe 1. Et à noter que pour la première fois en France, Mohamed entre parmi les 20 prénoms les plus populaires dans notre pays.
Bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous depuis les Ardennes. On parle de ces prénoms caméléons, des prénoms qui passent partout entre les différentes cultures. Alors je vois sur ma fiche au 3921, Marie-Laure, vous précisiez que le papa de vos enfants est de culture mauricienne, vous de culture catholique. Vous avez deux filles, comment s'appellent-elles ?
Alors ma fille aînée s'appelle Lucie Chanty. Donc c'est un mixte parce que il y avait effectivement une jeune fille au lycée avec moi qui s'appelait Lucille, que je trouvais brillante et magnifique, et donc du coup ma première fille je l'ai appelée Lucie parce que ça voulait dire la lumière, et ma deuxième fille s'appelle Divali, qui est une abréviation de Deepavali, qui est aussi le symbole de la lumière chez les hindous.
Bon, vous avez choisi un prénom pour chaque culture finalement dans votre famille avec Lucie et Divali. Merci beaucoup Marie-Laure, ces prénoms caméléons, vous continuez à réagir si vous le souhaitez au 39-21. Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Carrefour et l'aventure Discount. L'enseigne lance un nouveau concept. Qu'en pensez-vous ? La fin du hard discount, les détails avec l'enquête du 8h à suivre.
Europe 1, il est 8h08. Il est 8h10, la suite du journal. Sonia Mabrouk, Mathieu Béliard.
Carrefour, séduit par l'aventure du discount, lance ce matin un nouveau concept. Supéco, l'abréviation de supermarché économique, vous l'aurez compris, Supéco. Le premier magasin ouvre ses portes dans moins d'un quart d'heure à Valenciennes.
Oui, mais ce n'est pas du hard discount, mais du soft discount. Vous découvrez probablement ce terme, soft discount, nouveau concept, avec lequel la grande distribution espère se relancer. C'est l'enquête de la rédaction. Avec vous, Emmanuel Duteil, bonjour.
Bonjour.
Le soft discount, est-ce que vous pourriez nous donner des exemple concret pour comprendre de quoi il s'agit.
Bien, vous voyez ce que Renault a fait avec Dacia. Et bien, dans son domaine, la grande distribution fait pareil. Casino à Leader Price, Intermarché Netto et Carrefour revient sur ce créneau donc avec Supéco. Vous pouvez tout de suite oublier ce que vous avez connu à la fin des années 80 avec l'arrivée des hard discounters comme Lidl ou Aldi. Là, les magasins ressemblaient à des entrepôts, les produits étaient en vrac sur des palettes. Là, pas du tout. Les magasins sont simples, certes, mais ils sont bien agencés. Vous avez du bio, une boulangerie ou même un rayon boucherie chez Supéco. La grande différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de produits, 1700 références chez Lidl, 2000 chez Supéco, contre plus de 10 000 dans un hyper. Là, on trouve surtout les produits du distributeur, avec quand même un peu de produits de grandes marques. Il faut quand même bien attirer le client. Mais ça reste marginal, hein. Les grandes marques, c'est seulement 10% de l'offre, par exemple, chez Lidl. L'objectif, vendre moins cher pour capter les clients et qui font toujours plus attention au prix. Par exemple, chez Supéco, c'est 10% moins cher environ que dans les hyper du groupe Carrefour.
Mais comment font-ils pour vendre moins cher alors ?
Eh bien, il faut renier tous les coûts, avec bien évidemment moins de personnel, hein, 15 personnes environ dans un supermarché Supéco. Et surtout, ils achètent en énorme quantité. Et celui qui est de très loin le meilleur à ce petit jeu-là, c'est Lidl qui s'est complètement réinventé. Face au succès de Lidl, du coup, tous les distributeurs repensent leur offre. Casino repositionne Leader Price en relookant les magasins. Intermarché avec Netto mise sur le déstockage. Carrefour avec Supéco promet aussi des coûts. Lidl va surveiller justement Supéco, mais il n'est pas très inquiet. Michel Biraud, directeur marketing de l'enseigne.
Non, pas du tout. Même si on va bien évidemment se déplacer pour aller les voir, moi, j'y crois pas trop, quoi.
Ils y croient pas, ils sont confiants, même si ces responsables m'ont confié qu'ils allaient aller acheter tout de même tous les produits Supéco pour les tester. Pour le moment, Carrefour y va tout doucement. 5 magasins ont été annoncés, mais si ça marche, ils en promettent beaucoup plus.
L'enquête d'Europe 1 dans le journal de 8h, signée par Emmanuel Duteil, chef du service économie de la rédaction.
Europe 1, il est 8h13.
À présent, on va parler de l'US Open de tennis. Et il est en forme, Gaël Monfils. Jusqu'où peut-il aller ?
Le plus loin possible, on l'espère. Et si Gaël Monfils y arrivait, comme d'habitude dans ces moments-là, on s'enflamme, on y croit, mais ça dépend beaucoup aussi de l'adversaire en face. Mais déjà, c'est un parcours tout à fait honorable, comme le dit Yannick Noah.
Ouais, quart de finale, c'est vraiment bien. Tant bien même, il y a eu des matchs cet été, peut-être qu'il n'a pas gagné, mais où il avait l'air de retrouver son niveau, retrouver sa santé surtout, parce que lui c'est important, à partir du moment où il a la santé, qu'il peut enchaîner quelques matchs, c'est bien. Parce que Gaël, après 4 matchs, Gaël, ça veut dire qu'il est entraîné. Donc là, ça va être un test important où les deux joueurs n'ont rien à perdre, hein, que ce soit le petit Italien Berrettini, là, j'ai vu jouer un petit peu. Et Gaël, c'est une chance unique de se retrouver en demi.
Yannick Noah au micro Europe 1 de Corinne Boulou, et a noté la défaite de Roger Federer, éliminé en quart de finale cette nuit par Grigor Dimitrov, le Suisse de 38 ans qui semblait diminuer physiquement et qui a multiplié les fautes directes. C'est donc le Bulgare qui affrontera le Russe Daniil Medvedev, 5e mondial vendredi, pour une place en finale.
Allez, des terrains de tennis aux planches, c'est l'un de nos plus grands comédiens de théâtre. Il a joué Molière, Ionesco, Beckett, Dostoïevski. Michel Bouquet, à l'affiche du théâtre de Poche Montparnasse à Paris, à partir d'aujourd'hui, mercredi. À l'affiche, oui, mais pas sur scène, puisqu'il est le sujet de cette pièce, un spectacle tendre autour du personnage et de la vie de Michel Bouquet, joué par un jeune comédien, Maxime Daboville. Thierry Geoffrotin a rencontré Michel Bouquet, une voix toujours inimitable et la modestie qui caractérise toujours les plus grands.
Ce serait ridicule de se croire important quand on est acteur.
Petite leçon de théâtre, grande leçon d'humilité. Michel Bouquet a beau être le sujet de ce seul en scène, ne comptez pas sur lui pour raconter sa vie avec des superlatifs, bien au contraire. Et du livre d'entretien entre Michel Bouquet et Charles Berling, Maxime Daboville a composé un spectacle tendre, émouvant, drôle aussi. Vous apprendrez ainsi que le comédien a été un très mauvais conducteur, roulant péniblement en première et raflant plusieurs voitures lors d'un tournage avec Claude Chabrol. Vous apprendrez surtout que Michel Bouquet est un vrai personnage de théâtre, comme aime à le dire Maxime Daboville.
Il y a une démesure, si vous voulez, dans la vie de Michel Bouquet, qui en fait un personnage théâtral. Toujours dans l'étonnement, dans l'émerveillement.
Dans l'émerveillement.
Et dans les contradictions aussi.
C'est très émouvant pour moi de savoir que ça peut avoir un aspect un peu exemplaire. C'est très émouvant.
Maxime Daboville songeait à ce spectacle depuis 15 ans. On ne peut que se réjouir qu'il voit enfin le jour.
Et on peut se réjouir pour Thierry Geoffrotin qui a pu rencontrer Michel Bouquet. Merci Thierry Geoffrotin. Vous êtes sur Europe 1, il est presque 8h16.
Europe 1.